13h, Dessus de Table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et vous le savez, Dessus de Table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, bon appétit si vous passez à table. Et ça tombe bien parce qu'à table, nous allons y aller aujourd'hui. Manuel Mariani est là. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Manu qui retrouve un petit peu de couleur hein, puisqu'il repasse à table depuis quelques jours.
C'est vrai, c'est vrai. Les restaurants ont rouvert.
Voilà, et donc il peut enfin assouvir sa passion.
Ben oui, je ne suis plus au chômage technique.
Ben, notre invité en parlant de table, Manu, un de nos invités aujourd'hui.
Eh ben oui, parce que Table, c'est le nom de son restaurant, c'est Bruno Verju, qui est chef et restaurateur. Alors c'est des chefs comme on les aime, hein, parce que chef atypique, autodidacte, et pas seulement d'ailleurs, parce que c'est aussi un homme de radio, hein, puisqu'il a créé l'émission On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture avec Alain Kruger. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi cette émission a été déprogrammée, parce que c'était l'une des meilleures émissions qui traitait de gastronomie.
Alors pour une fois, il ment pas, il le dit tout le temps, ça, parce que d'habitude il flagorne un peu, il caresse les invités dans le sens du chose, mais là il le dit tout le temps. Ça fait
c'est pas mon
qu'il
genre.
Le dit. Non, c'est pas votre genre, Manu.
Vous me ferez pas passer pour ce que je ne suis pas, mon cher Philippe. Non, c'est vrai que bon, et voilà. Et puis, un amoureux des produits, hein, comme je le dis souvent, c'est un peu le fils spirituel d'Alain Passard. Hein, et comme on parle aujourd'hui des fruits et légumes, parce que c'est la fête des fruits et légumes frais, quand on parle d'Alain Passard et par extension de Bruno Verju, on parle forcément de produits et de fruits et légumes. Bruno, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour Philippe. C'est vrai qu'avec Alain, c'est une fratrie. On est deux frérots, on partage ce goût des légumes, ce goût des fruits, ce goût de la beauté. Et puis on célèbre l'été. L'été était en promesse depuis un certain temps, puisqu'on a raté le printemps, malheureusement, en étant confinés. Mais en tout cas, on n'a jamais perdu le cap et on est très heureux aujourd'hui de retrouver la beauté des produits dans toutes les énergies qu'elles peuvent nous offrir.
Ouais, et puis les produits, c'est très important chez vous. Hein, quand on lit votre carte, on connaît le nom du producteur, on sait plus ou moins où a été pêché le poisson. C'est bien limite les coordonnées GPS du poisson, on sait d'où il vient.
Je ne sais même pas comment on peut considérer qu'on puisse s'alimenter avec des mauvais produits. Ça, c'est une question plus générale. Et je crois que c'est un point sur lequel tout le monde doit réfléchir. Parce que de la façon dont on se nourrit décide non seulement du monde dans lequel on vit, mais aussi de son état général et de sa santé. Et puis surtout, la France offre tellement de terroirs, tellement de territoires, que les produits sont tellement exceptionnels avec des artisans merveilleux qu'on ne peut pas envisager une seconde de faire de la belle cuisine sans produits.
Longtemps, les gens ne se sont pas posé la question. Ils ont fait confiance à l'industrie agroalimentaire, donc ils pensaient que forcément, ils mangeaient bien.
Oui, alors ça, c'est un peu le problème, effectivement, de l'industrie agroalimentaire qui a prétendu pendant très longtemps, effectivement, à défaut d'offrir des qualités organoleptiques ou du plaisir véritable, mais offrir une sécurité alimentaire. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on était bien éloigné de la sécurité alimentaire, parce que tous les problèmes qui surgissent un jour ou l'autre dans l'alimentation générale, je dirais, des foules, sont des problèmes qui surviennent de, justement, carence de l'industrie agroalimentaire qui recycle les déchets en les faisant passer pour de la nourriture. Moi, je suis un grand combattant contre ça, vous savez. Faut pas me chauffer là-dessus, Manu. Attention.
Vive le surimi!
Un truc qui a dû vous faire hérisser le poil, là, pendant le confinement. Emmanuel Macron a dit « Je vais soutenir la filière de l'agriculture ». Il est allé chez Saveol.
Oui, ben il est allé. Alors après, je suis pas. Emmanuel Macron est quelqu'un, le président de la République, quelqu'un qui adore les produits, contrairement à l'image qu'il a.
Alors pourquoi aller chez Saveol, qui fait pousser des tomates où il n'y a pas de sans terre?
Je sais pas, il faudra interroger la personne qui l'a emmené là-bas.
J'avais déjà Manu, on n'en parle pas tout de suite, vous voyez. il a tenu 3 minutes.
Oui, non, mais en même temps.
Non, mais c'est parce qu'il a dit, il faut pas me chauffer avec ça. Je me suis dit, ça a dû.
Je trouve que l'image, elle est en décalage complète avec ce qu'est vraiment le personnage. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime les produits, qui aime manger et qui apprécie vraiment la qualité. Après, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il voulait soutenir une forme d'économie française face à d'autres économies, etc. Personnellement, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, j'ai trouvé que c'était un peu dommage et surtout en décalage complet avec sa propre réalité. On va pas revenir là-dessus. Moi, je pense qu'on doit nous militer au contraire pour des belles causes et oublier ces tomates issues de générations hors sol qui poussent en plus sur des substrats d'aluminium dont on sait qu'effectivement là, ils véhiculent un certain nombre de particules qui sont probablement précurseurs de beaucoup d'Alzheimer. Mais encore une fois, le génie en quelque sorte de l'industrie agroalimentaire, c'est de tuer. C'est le plus beau des romans policiers parce qu'on peut pas trouver qui a tué. Ce qu'on sait, c'est qu'il tue, évidemment, mais on pourra jamais le prouver parce que ça se fait sur 20 ans, sur une vie, tranquillement. Et moi, j'ai dit une chose au tout début du Covid, qui a été largement reprise, mais dans lequel je crois profondément, c'est que le Covid, c'est vraiment, vraiment la maladie de la malbouffe. Ceux qui ont été touchés, c'est les gens les plus faibles, c'est les gens qu'on nourrit les plus mal, en leur faisant croire qu'ils se nourrissent bien et que c'est pas cher, alors qu'on les escroque et que petit à petit, on les tue et qu'on les rend très fragiles par rapport à, effectivement, un environnement viral, parce que simplement, ils n'ont plus en eux les défenses immunitaires, celles que peuvent conférer nos beaux fruits et légumes. On va revenir au sujet. On veut du soleil, on veut des fruits et légumes, on veut de la qualité.
Oui,
il est chauffé, là.
Absolument. Il est chaud, Bruno, il est chaud. Alors, justement, puisqu'on parle des fruits et légumes frais, ça tombe bien parce que c'est la fête des fruits et légumes frais. Et nous avons avec nous au téléphone Sophie Pedroza-Varanda, qui est responsable de la promotion d'Interfel. Alors, Interfel, c'est l'interprofessionnel des fruits et légumes. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Alors, cette année, la fête des fruits et légumes frais, c'est une fête 2.0, 100% en ligne, parce que d'habitude, il y a beaucoup de manifestations, d'animations. Je crois que c'était au but de Chaumont l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Alors, bon, vous avez dû entendre, je pense, un petit peu le coup de chaud de Bruno. Alors, vous représentez toute la filière des fruits et légumes, mais là, c'est la fête des fruits et légumes frais. Est-ce que les gens consomment trop peu de fruits et légumes frais?
Alors effectivement, c'est un événement phare initié par l'ensemble des professionnels de la filière, comme vous l'avez indiqué. Elle a un caractère un peu atypique cette année, puisque malheureusement, compte tenu du contexte, nous n'avons pas pu réaliser, comme chaque année, des événements phares sur des lieux publics. Vous avez cité donc le parc des Buttes Chaumont, c'était un lieu parmi tant d'autres. On a quand même voulu maintenir cet événement parce que c'est important de rappeler aux consommateurs de consommer des fruits et légumes frais. Aujourd'hui, nous sommes en dessous des recommandations nutritionnelles. Rappelons-le, il faudrait consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. On est loin de ce chiffre clé. D'où le travail au quotidien, voilà, de l'interprofession, de l'ensemble des professionnels, des diététiciens, des chefs qui travaillent avec nous à nos côtés et qui sont là, qui jouent un rôle déterminant pour donner envie et donner des idées. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que parfois les gens ne mangent pas de fruits et légumes parce qu'ils ne savent pas comment les choisir. Comment les acheter, comment les conserver à la maison et comment les cuisiner. Donc malgré ce Covid, la fête des fruits et légumes frais, elle a bien lieu cette année, mais effectivement, elle a sous une autre forme, 2.0, on a créé une page Facebook dédiée à l'événement avec énormément de contenu. Des idées recettes, des trucs, des astuces, des idées pour faire aimer les fruits et légumes aux enfants, des menus pour la semaine, pour toute la famille. Voilà, tout y est. En tout cas, on l'espère, pour aider monsieur et madame tout le monde, voilà, à consommer des fruits et légumes frais et à se faire plaisir, voilà, dans la convivialité, voilà, et de manière festive.
Alors, il y a une vraie parano qui s'est emparée des consommateurs. Aujourd'hui, tout le monde veut tout emballer. Parce que et en plus tout le monde veut tout sous plastique parce qu'ils ont peur d'aller acheter des produits des fruits et des légumes au détail à cause du Covid. Comment est-ce que l'industrie et votre branche s'adaptent à ça et à cette interrogation du consommateur?
Moi, je pense que la première chose qu'il faut dire aux consommateurs et aux auditeurs, c'est ne pas avoir de crainte de consommer des fruits et légumes, même en période de Covid. Il y a des gestes simples qui existent, qu'on a parfois l'habitude d'oublier et qu'il faut rappeler, c'est des gestes d'hygiène, tout simple, les fameux gestes barrières. Eh bien, avant de consommer un aliment, quel qu'il soit, même fruits et légumes, de toute façon, il faut passer par la phase de lavage. D'abord, on se lave les mains avant de commencer à cuisiner et on lave nos produits. Voilà, sous un jet d'eau, tout simplement.
Voilà.
Et ça, déjà, je pense que si tous les Français intègrent ce geste qui fait partie des gestes qu'on devrait avoir au quotidien. Il n'y a aucun risque de consommer des fruits et légumes frais, y compris ceux qui sont vendus non emballés.
Oui, on parle des produits qui sont sur les marchés, mais aussi dans la grande distribution.
Dans la grande distribution, en libre-service.
En libre-service, oui.
Oui.
Alors, voilà, pourtant, les gens...
Courses,
pardon, allez-y.
Courses, voilà, on fait ses courses, on arrive à la maison, on lave ses fruits et légumes, on lave ses mains.
Alors, les fruits et légumes frais, c'est quand même un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en France, hors pommes de terre, je précise, parce qu'effectivement, la pomme de terre, apparemment, n'est pas classifiée dans les statistiques comme un légume frais.
Parce que moi, je voulais vous demander ce que vous aviez fait de vos stocks de patates, disant qu'il y a des tonnes de patates à écouler, mais c'est pas un produit frais.
C'est pas considéré comme un légume d'un point de vue nutritionnel, et ils ont effectivement leur organisation interprofessionnelle.
D'accord, oui, donc c'est à part. Alors, donc je disais 16,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pourtant c'est seulement 1,5% des dépenses totales des ménages français, j'ai envie de dire, oui. Où passent les fruits et les légumes. Parce que c'est vrai qu'il y a un décalage quand même, c'est très peu, 1,5% des dépenses des ménages.
Oui, effectivement, les Français utilisent finalement leur argent pour d'autres postes, autres que les postes alimentaires et encore moins fruits et légumes, ce qui est bien dommage, parce qu'on voilà, on a rappelé en tout début l'importance d'en consommer. On sait aujourd'hui qu'une alimentation riche en fruits et légumes, ces fameux 5 par jour dont on parlait tout à l'heure, permettent de prévenir un certain nombre de maladies. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Avoir une alimentation riche en fruits et légumes, ça nous prévient du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, d'un certain nombre de cancers et de l'obésité.
Bruno,
a levé le doigt. Plaisir, gustativement parlant, voilà, c'est des produits bons, savoureux, finalement simples et faciles à préparer dès lors voilà, où on s'est un petit peu intéressé à ces produits. Et donc, au final, faisons-nous plaisir tout en préservant notre santé.
Oui, Bruno Virgiu voulait réagir.
Non, ce qu'il faut, c'est parler de la particularité. Quand on entend fruits et légumes, personnellement, moi, ça n'évoque rien pour moi, surtout quand ils sont frais, on ne sait pas trop. Encore une fois, je pense qu'il y a moins de risques à attraper le Covid en mangeant des fruits et légumes qu'à s'empoisonner, avec les pesticides, avec les engrais, avec tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, parce qu'on sait que, notamment pour tout ce qui est racinaire, c'est vraiment des pompes à capter un peu toutes les saloperies qu'on a pu mettre dans la terre et tous les traitements qu'on a fait ensuite sur les légumes. Je pense notamment aux tomates. Quand on voit, par exemple, tomates de plein champ, on se dit, waouh, c'est génial, ça pousse en plein champ, c'est magnifique, etc., etc. Faut pas oublier qu'après, c'est pété d'anti-pourriture et autres saloperies, etc., qui sont à très haute toxicité. Alors, le lavage peut en enlever, mais pas forcément. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut s'intéresser et toujours notre, en tout cas, moi, mon projet, par nourrir, c'est éduquer, faire comprendre. Donc, si on veut faire manger des fruits et légumes aux personnes, d'abord, il faut qu'ils aient des goûts, qu'ils aient des saveurs. Donc, il faut qu'ils aient poussé dans des beaux terroirs. Il faut en plus qu'ils aient été cultivés de façon tout à fait naturelle,
et respectueuse.
Presque sauvage, respectueuse. Et surtout, que ce soit des variétés qui ne soient pas des F1, c'est-à-dire ces variétés qui ont toutes été modifiées génétiquement pour assurer une croissance, une beauté, une couleur, tout ce qu'on veut, mais qui sont en réalité des véritables saloperies. Donc, éduquons les personnes, je pense que ça c'est un projet super important, de dire allez sur les marchés, allez chez les producteurs, parlez avec eux, demandez-leur ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi la graine, pourquoi c'est comme ça.
Posez des questions sur les variétés, sur les saisons.
Et en même temps, vous allez à la fois vous enrichir, et en même temps vous allez enrichir votre appétit, et à partir de là, vous allez voir que faire la cuisine, c'est la chose la plus simple du monde quand on est exposé à la beauté d'un produit.
Oui, donc faut qu'on mange des fruits et légumes frais et sains.
Voilà, ça ne veut rien dire. Je veux dire, on peut manger 5 fruits et légumes par jour et s'empoisonner bien mieux qu'en mangeant probablement un hamburger.
Alors, c'est vous dire. Légumes faites des légumes et des fruits frais, mais est-ce que ce sont des fruits et des légumes français? Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, on a mangé essentiellement français. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ou on a récupéré les produits comme avant?
Au niveau de l'offre fruits et légumes, aujourd'hui vous avez bien sûr de l'offre française, mais vous avez aussi de l'offre d'autres pays. Après, c'est au consommateur, je pense, de faire son propre choix et de choisir finalement quel produit il va vouloir acheter. Moi, je pense que ce qui est important avant tout, c'est que les gens consomment des fruits et légumes. Mais après, reste le libre choix au consommateur de s'orienter vers tel ou tel produit.
Mais on a communiqué, on nous a dit, allez, au moins on est confiné, mais on va manger français. On a mangé des fruits et légumes français. Est-ce que les consommateurs, est-ce qu'il y a eu des études, ont vu la différence? Et est-ce qu'aujourd'hui, ils réclament plus de produits français maintenant qu'ils ont été habitués à en manger pendant 3-4 mois?
Alors, en tout cas, en termes d'études, effectivement, les Français, il y a eu comme un élan de solidarité pendant la période de confinement, et les gens se sont vraiment tournés vers l'achat de fruits et légumes français. Donc il y a eu vraiment ce soutien à la filière française. Et je ne sais pas si ça va perdurer en post-confinement, mais en tout cas, ça a été une vraie dynamique vis-à-vis de ces produits. Oui.
Alors, puisque vous parlez d'études et de statistiques, Sophie, il y a une étude que j'ai vue en préparant l'émission, c'est que les dépenses des Français en termes de fruits et légumes frais augmentent, mais la quantité, le nombre de kilos consommés baisse. Est-ce que c'est parce que les fruits et légumes globalement, les fruits et légumes frais coûtent de plus en plus cher, ou est-ce que c'est parce que les Français ont pris conscience qu'il fallait acheter des produits de qualité, et donc ils achètent des produits d'une meilleure qualité aujourd'hui, et c'est pour ça que le chiffre d'affaires, les dépenses augmentent, alors que la quantité consommée baisse. Est-ce qu'on a des statistiques plus fines là-dessus chez Interfel?
Oui, mes collègues du service économie pourraient mieux répondre que moi à cette question précise. En tout cas, je pense que les gens, il y a vraiment un engouement, c'est manger mieux. Ça, c'est évident, de toute évidence.
Ça, ça se ressent dans les études.
Se manger mieux pourrait se traduire par finalement une orientation vers des produits plus qualitatifs, signes officiels de qualité, par exemple, etc.
Oui, ce que vous appelez les signes officiels de qualité, c'est effectivement tout ce qui est label rouge, IGP, AOP, le bio. Alors, moi j'ai une question au niveau du bio, parce que c'est vrai que on a un label bio franco-français qui est le label AB, hein, agriculture biologique, hein, mais il y a aussi maintenant le label bio européen avec lequel on trouve sur les étals des fruits et légumes qui viennent de pays de l'Union européenne, qui ont un label bio européen, mais qui ont un cahier des charges local beaucoup moins contraignant que le label bio franco-français. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'information des consommateurs, parce que du bio polonais ou bulgare, est-ce que c'est aussi bon que du bio franco-français avec le label AB?
Effectivement, il existe des cahiers des charges différents, hein, d'un État à un autre. Après, maintenant, dire si l'un est meilleur que l'autre, je serais mal placée pour le dire. Mais il y a une différence qui, effectivement, existe au niveau des différents États. Et peut-être que l'idéal serait d'arriver un jour à une harmonisation de ces cahiers des charges, de manière à ce qu'au moins un logo, lorsqu'il sera apposé sur un produit, il signifie la même chose.
Bah c'est en cours, c'est en cours, mais au moins 10 ans, au moins 10 ans.
Ouais. Hein, voilà, hélas. C'est un travail malheureusement de longue haleine, mais voilà, faut rester positif et on espère en tout cas qu'on s'oriente tous vers la bonne direction.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup Sophie de nous avoir présenté un petit peu cette fête des fruits et légumes online cette année. Et donc ça dure jusqu'à demain, donc sur les réseaux sociaux d'Interfel, les fruits et légumes frais. Puis un site aussi, hein, les fruits et légumes frais, qui est très bien fait. Vous pouvez aller le consulter sur internet. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler des fruits et légumes frais.
Philippe Verjus nous donnera des recettes. À tout de suite.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Eh oui, figurez-vous que c'est la fête, jusqu'à demain d'ailleurs, Manu. Après,
absolument.
On passera à la fête de la musique. Hein.
Oui, mais c'est pas parce que la fête des fruits et légumes frais s'arrête demain qu'il faut arrêter d'en manger, Philippe. Hein.
Ah, il faut commencer. Tiens, Bruno Verjus est notre invité aujourd'hui. C'est un bel abtonyme, ça, Verjus. Hein.
N'est-ce pas?
Ouais, il est magnifique.
On est dans le fruit.
Ouais, on y est.
Absolument. On est dans le fruité.
Dans le grappillon.
Voilà. Et puis, dessus de table, Bruno Verjus, le restaurant, table. Donc, table étoilée d'ailleurs, depuis 2018.
C'est ça. Hein, Étape passionnée par les fruits et légumes, parce que c'est vraiment au cœur de notre activité. C'est vrai que recevoir tous les matins des fruits, des légumes de nos artisans d'un peu partout en France, de plein de terroirs différents. En ce moment, on reçoit des choses de Provence qui sont à pleurer, des choses du côté de Nevers aussi, notamment sur les collections d'herbes aromatiques et de fleurs et quelques premiers piments. On a eu les premières tomates aussi qui sont arrivées cette semaine, des vraies variétés anciennes, pas les fausses.
On a eu des belles asperges aussi cette année.
Alors les asperges, on les a un peu ratées malheureusement, le début de l'asperge. Ouais. Et puis ensuite, on a été condamné à fermer, donc on les a vus pousser. On les a vus, on n'a pas eu les morilles non plus. Moi, j'aime beaucoup le sauvage aussi, parce qu'on oublie, quand on parle des fruits et légumes, c'est formidable, mais il faut quand même vous rendre compte tous d'une chose, c'est que en bas de chez vous, à la condition où vous soyez dans un biotope de qualité, c'est-à-dire pas au bord de l'autoroute ou du périphérique, et quand bien même, vous avez énormément de variétés de plantes et de fleurs sauvages qui poussent. Il y en a à Paris, il y a de la mauve, il y a du mouron des oiseaux, il y a des orties, etc.
Il y a du quoi ?
Du mouron des oiseaux, qui est une toute petite... de petites feuilles très tendres, très belles, qui ont un goût à peine terreux, mais très délicat, comme ça, la mauve, le mucilage des mauves. Paris est rempli de roses trémières. Vous avez vu ces roses trémières, la beauté de ces grandes tiges florales.
Elles viennent de l'île de Ré.
Elles arrivent de tous ces bobos parisiens qui ont dû replanter
bien les
grappes. Mais quel bonheur, ils ont eu bien raison. Parce que la rose trémière, quand on mange le bouton de la rose trémière avant la fleur, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On les fait sauter avec un tout petit peu de beurre de micelle, quelques gouttes d'eau, et on a quelque chose, un mucilagineux merveilleux. Et voilà, et on est enthousiasmé de ça. Vous voulez des recettes ? On va faire des recettes aussi.
Non, attendez, est-ce que les gens vont au restaurant pour manger des légumes ?
Les gens vont au restaurant pour se bien nourrir, en tout cas dans ceux que nous aimons fréquenter, ceux dans lesquels Manu Mariani passe l'essentiel de sa vie. C'est des tables.
Marc Mariani ne mange pas que des légumes. Hein,
des légumes, mais il adore aussi.
Il y a du beurre dedans, sinon.
Moi, je vais vous dire une chose. J'ai jamais compris, et en ça, mon frérot Alain Passard m'a beaucoup aidé il y a une quinzaine d'années, pourquoi les légumes avaient toujours la place à côté de l'assiette. Vous vous souvenez de cette époque-là ? Vous êtes assez grand pour vous en souvenir. On avait le plat, qui était un poisson, une viande, je sais pas quoi, un riz de veau, et puis à côté, comme ça, comme si c'était un peu indigent, un petit peu honteux, on avait une assiette dans laquelle il y avait les légumes. Alors les pauvres, ils étaient extrêmement indigents à cette époque-là, parce que la plupart du temps, ils étaient cuisinés vraiment très médiocrement, et Alain Passard est l'homme qui a remis le légume au centre de l'assiette en faisant une cuisine végétale, une cuisine d'émotion, une cuisine d'énergie, une cuisine de terre.
En faisant un ingrédient à part entière et pas un accompagnement.
Déclarant, mais même peut-être même en décrétant de façon extrêmement certaine, en disant ma betterave en croûte de sel, elle a autant de caste, autant de luxe, autant de talent, autant de beauté qu'un turbo, qu'un caviar ou qu'une morille. Et ça, c'était génial parce que c'était vrai, en plus d'arriver à donner un tel relief, un tel élan à finalement une pauvre racine de dessous la terre. Et aujourd'hui, je crois qu'on a, grâce à lui et grâce au travail d'autres aussi chefs dans le monde et à la conscience de ces artisans, on a compris que le légume était au centre de la cuisine parce que nous, chefs, moi, le matin, honnêtement, quand ça arrive, avec mes deux secondes, quand on voit tout ça arriver, on a envie de faire la cuisine parce que c'est de l'énergie, on sent les vibrations, on sent la vibration de la terre, on sent la vibration du soleil, on sent la vibration de l'eau. Alors, on a nos éléments, il en manque un élément, c'est le feu, et ça, le feu, c'est l'élément du cuisinier. Mmh. Et avec ça, on fait les recettes.
Alors, dans votre restaurant, table, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pas une cuisine ouverte, mais on mange pratiquement dans la cuisine, en fait. Il y a un espèce de grand comptoir sur lequel on s'attable et la cuisine est juste derrière, c'est-à-dire qu'on est avec vous dans la cuisine.
Exactement, parce que c'est vrai que chez Table, quand j'ai conçu mon restaurant, je voulais d'une certaine façon qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la cuisine où on fait des choses opaques et puis une porte à battant qui passe ou qui s'ouvre, comme ça, qui coulisse. Et puis d'un seul coup, il y a des plats qui sortent finalement du néant ou des enfers en fonction de la chaleur et qui arrivent dans une salle anonyme. Et vous savez, la cuisine et le bien manger, c'est un dialogue. Donc j'ai créé ce dialogue entre la cuisine et la salle et la cuisine et la salle et la cuisine. Pourquoi ? Parce que nous aussi, cuisiniers, on conçoit que les gens qui sont dans la salle de restaurant, ils ont envie de voir ce qui se passe dans une cuisine. Dont acte. En plus, il se passe plein de choses très intéressantes qui peuvent les renseigner aussi sur la façon.
Il y a une mode des tables, la table du chef dans les restaurants. C'est une table dans un coin de la cuisine. En fait, vous, la table du chef, elle est partout.
Moi, je me suis toujours méfié des modes parce que vous savez, les modes passent et l'essentiel reste. Donc, je suis pas un homme à la mode.
Donc, l'expression qui consiste à dire on va pas voir ce qui se passe en cuisine, elle est morte.
Logiquement, elle est morte parce qu'on a envie de savoir, on a envie de comprendre. C'est normal. Mmh. On doit être dans cette fluidité-là. Mais nous, cuisiniers, voir nos clients, voir les gens qui fréquentent nos restaurants manger, qu'est-ce que ça nous renseigne formidablement.
Et eux vous voir cuisiner, et s'intéresser à ce que vous faites, aux gestes.
Il y a un dialogue, c'est parler à deux dans une réciprocité d'échange. Et la cuisine, pour moi, telle que je la pratique chez Table, c'est d'abord et avant tout un lieu de culture, un lieu où on vient échanger, un lieu de lien social. On a tellement abandonné le lien social depuis 2 mois et demi, vous imaginez? On a même parlé, on a même inventé cette locution abominable, je sais pas quel est le criminel, mais on va vraiment le traduire, qui a inventé la distanciation sociale. Mais celui-là, il faut l'enterrer avec des carottes polluées.
Alors qu'il voulait dire distanciation physique.
Oui, mais c'est encore pire.
Mais donc, en fait, ils se sont trompés de mots.
On n'a pas envie de distanciation physique ou sociale. On a tous envie de s'embrasser. Enfin, s'embrasser, ça crée des énergies personnelles et des défenses immunitaires formidables, qui nous évitent évidemment d'être malades. Voilà. Mais écoutez,
les hygiénistes ont gagné.
Je suis contre les hygiénistes.
Les hygiénistes ont enfin gagné.
Il y a effectivement cette doctrine hygiéniste héritée de Pasteur, qui a quand même quasiment tué ses enfants, puisqu'il les avait rendus tellement hygiéniques qu'une de ses filles, en allant jouer dans la cour, s'est blessée et elle est morte de septicémie. C'est quand même la preuve par le contraire. Le pauvre et la pauvre fille. Moi, je suis un apologue du vivant et de la biodiversité. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où on est tous en combinaison avec des masques et on respire sous respirateur artificiel et dans lequel la nature n'a plus aucune existence, ou est-ce qu'au contraire on a envie d'aller se rouler dans l'herbe le bord d'une rivière avec une jolie fille? Ben moi je prends plutôt cette option là.
Oui. Alors justement, vous qui êtes vraiment pour la naturalité des choses, pour le produit, pour les fruits, pour les légumes, est-ce que ça fait de vous un ami des véganes, Bruno Verju?
Parce que C'est une très bonne question. Il y a une époque où on a dit, ah, mais Bruno Verjus, il aime pas les véganes, c'est horrible, il rôtit des turbos entiers, des volailles, des agneaux entiers, c'est absolument abominable, etc. Moi, je suis désolé. Encore une fois, il y a pas de dichotomie, il y a pas les viandards, les véganes, etc., etc. Il y a des gens qui sont amoureux de certains produits et dont certains décident, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, de se nourrir exclusivement de légumes et rien d'autre chose. Merveilleux, formidable, si ça les accomplit dans une dimension personnelle, dans une dimension d'équilibre tonique, physique, si ça les accomplit dans une... Dans une forme particulière d'évolution de leur esprit et d'accomplissement d'une espèce de quête, etc. Moi, je dis génial. Personnellement, j'adore me nourrir que de légumes et je peux le faire sans aucune frustration. De la même façon que de temps en temps, j'ai envie d'aller taper une grosse côte de vache, une belle vache qui a fait 3-4 veaux, qui a vécu 13, 14, 15 ans, qu'ensuite on a engraissé au pré, donc qui a fait un cycle vertueux et qu'on peut évidemment manger parce qu'elle sert à ça. Jamais on va aller manger un jeune bœuf ou un petit animal qui a été élevé que pour fabriquer de la protéine, parce que ça, c'est scandaleux, ça, c'est inutile. Ça, c'est l'agroalimentaire, ça, c'est l'industrie, c'est tout ce qu'on veut pas. Mais manger dans la vertu, si on mange des légumes dans la vertu, des animaux dans la vertu, des poissons dans la vertu, c'est merveilleux.
Donc le restaurant Table aurait pu s'appeler Vertu aussi.
Il y a un restaurant juste à côté qui s'appelle Vertu,
oui.
Qui est un étoilé, qui est mon voisin, qui est une merveille aussi absolue.
Virtus même.
Ou Virtus.
Virtus en latin.
C'est comme la vertu, on est bien d'accord. Mais j'aurais pu être Bruno Vertu aussi, puisque...
Un Argentin et une Japonaise ou Coréenne.
Oui, coréenne, c'est coréenne, ça. Un merveilleux couple.
Très, très belle,
une merveilleuse cuisine.
Couple à la vie comme à la cuisine.
On a la chance aussi dans ce quartier d'avoir des voisins extraordinaires, parce qu'on parle de moi, on va pas parler que de moi, mais on a aussi mon plus proche voisin, c'est Giovanni Passerini, un Italien qui a le talent de la cuisson, qui a le talent des produits, etc. Il y a Septime un peu plus loin, il y a Virtue. Voilà, on a la chance d'être entouré de la qualité.
Et le marché d'Aligre,
dans lequel on trouve aussi...
Les très belles choses.
Voilà, quelques très belles choses en allant les chiner, absolument.
Oui, il faut chercher dans le marché d'Aligre.
Il y a tout.
Honnêtement, je ne suis pas un bon témoin du marché d'Aligre, puisque je n'y fais pas mes courses, puisque je travaille en direct avec les producteurs, mais je sais qu'il y a aussi de la qualité.
Alors justement, Bruno, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous cuisinez des fruits, des légumes d'exception et généralement plus généralement des produits d'exception. Et Quand on est un particulier, si on veut trouver ces produits, comment fait-on? Parce que vous, vous avez la filière, vous êtes en direct avec ces producteurs qui, pour certains, ne travaillent d'ailleurs qu'avec la, la restauration parce qu'ils n'ont pas les moyens logistiques de vendre au grand public et puis ils n'ont pas non plus forcément la production suffisante pour satisfaire tout le monde. C'est quand on vend des très bons produits à Paris ou dans d'autres villes, comment fait-on pour trouver ces produits-là? Il faut aller dans des marchés de producteurs.
Oui, mais attendez, quand vous dites ça, c'est intéressant, mais vous oubliez d'où je viens. Moi, je suis un autodidacte. Donc, moi, il y a 30 ans, il y a 7 ans, je fais mes courses dans les marchés. Donc, je me suis formé le goût tout seul. Mes producteurs, je les ai découverts un par un, au hasard, mes pérégrinations dans les marchés. La plupart vendent quand même dans des marchés. C'est là où je les ai trouvés.
Il faut chiner donc, dans les marchés.
Marchés. Mmh. Mais encore une fois, la chose la plus difficile à faire dans la vie, c'est de se cultiver. Pourquoi? Parce que pour se cultiver, il faut consentir à l'effort. Il faut garder la curiosité. Il faut être en éveil. Il faut avoir envie d'apprendre. Il faut aussi lire des livres dans lesquels on apprend, évidemment, l'essentiel de sa connaissance. Et puis après, petit à petit, on se fabrique une bibliothèque de goût, on goûte et on dit tiens, c'est marrant, cet abricot que j'ai acheté hier chez ce marchand parce que je l'avais trouvé joli, ben il est délicieux, ou alors il n'a pas de goût, il est juste joli, il n'a pas de goût, et petit à petit on comprend, et on fait d'une certaine façon son curating en fait de producteurs et de produits, mais ça nécessite d'avoir du courage et d'être capable d'aller se balader dans tout un marché ou dans plusieurs endroits dans la ville pour aller faire ses courses.
Là on parle d'abricot, c'est tôt ou c'est le moment pour
On est en plein dedans et j'ai une obsession sur l'abricot en ce moment. Ça, alors.
Parce qu'il y en a. Il y en a depuis deux, trois semaines.
C'est ça. C'est le début de saison. On a beaucoup de chance cette année. Les fruits sont délicieux. C'est pas tout le temps.
Donc on peut y aller sur l'abricot.
Les fruits sont délicieux. Ça veut dire probablement aussi qu'on aura des vins exceptionnels parce que si les fruits sont bons, les raisins qui sont des fruits vont être délicieux. Donc c'est des bons indices. Les cerises étaient très bonnes. Les fraises étaient très bonnes. Les cerises, là, on commence à basculer un petit peu maintenant. On récupère les premières griottes aussi que j'adore. Mais les abricots sont formidables. Et alors, je les travaille presque à toutes les sauces, les abricots, y compris, évidemment, avec le salé.
Bien. D'accord. J'espère qu'on va avoir des recettes tout à l'heure.
Dès que vous voulez.
L'abricot, ça c'est avec une plaisir. Bonne idée, oui, Bruno Vergeot, oui.
On trouve en ce moment, puisqu'on parlait du marché d'Aligre, au marché d'Aligre, on trouve en ce moment des abricots rouges du Roussillon qui sont absolument délicieux, on est en plein dans la saison.
Que j'adore, et nous, rouge. Par exemple, on fait un plat, allez, je vous donne une recette, on a, j'adore les... Non, pas de recette, plus tard, une recette.
Voilà, exactement.
Juste après la pause. Ouais.
Après
c'est pas parce que Manu est mal élevé, parce qu'il veut pas freiner, mais il faut s'arrêter. Et dans un instant, on revient 01 53 48 3000 si vous voulez intervenir sur les fruits et les légumes. Vous êtes les bienvenus, 01 53 48 3000.
Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Tu laves à combien de degrés?
Voilà, alors Manuel Mariani, on est à l'antenne. On parle de fruits et légumes aujourd'hui, puisque là, c'est la fête des fruits et des légumes frais. Et notre invité aujourd'hui, c'est Bruno Vergeux, qui parlait d'abricot tout à l'heure. Alors comment est-ce que vous le travaillez, l'abricot? Puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous le travaillez aussi en salé.
Écoutez, là, alors en ce moment, j'ai nourri une grande obsession pour l'abricot. Ça m'arrive assez régulièrement de nourrir des obsessions pour des produits. Et en ce moment, c'est l'abricot. Et donc, je travaille de mille manières. Je fais un plat que j'aime beaucoup qui s'appelle l'arbricot. Et l'arbricot, c'est un mot valise qui vient de la contraction du haricot et de l'abricot. Et donc, on fait un haricot aux abricots. Alors, comment on fait? Bah, c'est très, très facile. D'abord, il faut sélectionner les petits haricots de grande qualité, très frais, bien durs, bien vibrants, etc. Et vous savez, le haricot, il a une particularité. C'est qu'il a un pédoncule, celui qui l'attache effectivement à la tige. Voilà. Et puis, il y a cette espèce de petite chose très élégante, comme ça. Et souvent, on voit, quand les haricots sont travaillés, on a coupé les deux côtés. Ben non, surtout pas. Parce que par rapport à la cuisson, la petite terminaison du haricot, comme ça, c'est un peu le fusible. Parce que s'il est trop cuit, il va tomber. Alors là, c'est pas bon, ça va pas. Donc, on ne coupe que le pédoncule un peu ligneux. On essaie de choisir des petits haricots, de petites cueillettes, de petite taille, pas des gros trucs avec des gros grains à l'intérieur et pas bon. chez un producteur, parler avec lui, c'est quoi, etc. On peut mélanger d'ailleurs plusieurs variétés de haricots, des verts, des haricots beurre, des haricots violets. Il y a plein de choses comme ça. Et puis on va les prendre dans ce que j'appelle un sautoir, c'est-à-dire c'est une casserole un tout petit peu évasée, dans laquelle on va mettre un petit peu d'eau gazeuse. Pourquoi de l'eau gazeuse ? Parce que le carbonate de l'eau va permettre de conserver la belle couleur du haricot. Donc on va, comme ils sont frais, on va pas les blanchir, on va pas commencer à les lessiver, à les laver, à condition qu'ils soient de bonne qualité. On les aura évidemment lavés à l'eau fraîche avant, comme on le recommandait tout à l'heure. Une petite noisette de beurre, 3 gouttes d'huile d'olive, et puis on va commencer à les cuire comme ça. Et quand ils vont commencer à devenir...
Salé ou pas le beurre? Parce que vous utilisez beaucoup de beurre salé.
Moi, j'aime bien mettre un petit beurre demi-sel, évidemment. Je travaille un beurre extraordinaire, une petite fermière qui est dans le nord de la France, pas loin de la mer, mais je vous dirai pas où exactement, et qui a un beurre de vache rouge des Flandres absolument extraordinaire. J'aime beaucoup ce beurre-là. Parce que là, moi, j'aime beaucoup les vaches aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Et alors,
terminer les haricots.
Alors donc, du coup, voilà, dans votre sautoir comme ça, la petite eau gazeuse, les haricots, vous conduisez ça à l'oreille tranquillement. Il faut que ça aille quand même assez rapidement, mais pas trop. Quand il remonte, il y a plus assez d'eau, on en remet un petit peu. Puis là, vous allez voir, les haricots vont commencer à nacrer un petit peu avec le beurre, et vous allez goûter. Vous allez voir, ils sont croquants, mais ils commencent à se donner à peine et ils gardent du croquant. Ils sont prêts. Votre abricot, vous l'avez coupé en petites lamelles, vous le jetez comme ça. Dans la vapeur du haricot, et vous le servez en assiette avec un tout petit peu de sel, et vous avez le plus beau des plats de légumes dans la suavité, dans la douceur, dans le soleil, et c'est merveilleux. Et je l'ai travaillé ici. Hier, on a eu la chance, à l'Île-Dieu, ils ont pêché 2 grosses langoustes magnifiques à côté du port de la Meule, et ça, c'est formidable. Et donc, j'ai eu envie de travailler cette langouste, justement, avec des haricots et des carottes, avec des abricots, j'y arrive pas, et avec des carottes râpées. On a râpé une belle carotte du midi, on l'a tombée de la même façon comme ça, un petit peu de beurre, un peu d'eau gazeuse et les abricots, et puis avec le corail de la langouste, on a fait comme une petite mayonnaise, on l'a cuit et mixé avec un tout petit peu de beurre, donc ça fait un crémeux absolument très doux et magnifique, et puis on a envoyé un morceau de langouste comme ça, tempéré au beurre clarifié sur ces carottes abricots. J'en fais aussi un dessert, j'aime beaucoup travailler carottes râpées, abricots, un petit peu de miel, un petit peu de safran, un petit peu de beurre, comme ça, on est jusqu'au léger croquant de la carotte, et on envoie dessus, quand c'est tiède, comme ça, une très belle quenelle de crème glacée à la brioche toastée. On fait toaster une brioche, une crème anglaise, on mélange tout ça, on fait une glace, et on y va.
Ouais,
trois recettes pour le prix d'un.
La carotte, c'est très bien, c'est très bien en dessert aussi.
En plus, les trois, hein, c'est pas mal, franchement.
Alors on peut faire plein de choses avec l'abricot du Roussillon.
On peut faire absolument plein de choses. J'aime beaucoup aussi en ce moment. On a les premières girolles de cueillette aussi. Vous savez, ça arrive toujours maintenant. C'est-à-dire là, vers la fin juin, début juillet, on a les premières girolles. Puis après, on n'en aura plus. On les retrouvera peut-être en septembre. Et donc, essayez, faites un petite girole tombée au sautoir, comme ça, un tout petit peu d'huile d'olive. On blanchit les girolles, en revanche. Ça, c'est important, parce que ça permet vraiment, c'est un champignon des bois, permet de le nettoyer. Eau bouillante. À peine salé, un petit peu de vinaigre blanc, on jette les girolles dedans, tac, on les sort, on les rafraîchit, on les prend dans un sautoir, un petit peu d'huile bien chaude, on les fait sauter parce que du coup là, elles vont se raidir un petit peu, petite noix de beurre, un petit peu d'abricot, et c'est parti, girolles abricot, magnifique.
Ça fait envie, Philippe, je sais pas.
Ah bah, moi, franchement, ouais.
Hein, l'appétit ouais. S'ouvre.
Ah ouais.
Mais de toute façon, on a toujours faim.
Non, mais l'histoire de la langouste, là, j'essaie d'imaginer les saveurs.
Ah, c'était formidable. Et alors, vous savez quoi? L'histoire, elle est très rigolote. À l'Île-Dieu, il y a cette tradition de pêcher la langouste dans le port de la Meule. C'est ce petit port naturel, comme ça, absolument magnifique. Et comment les pêcheurs, qui évidemment disent jamais qu'ils ont pris des langoustes, parce que c'est un trésor, donc ils ont pas envie que les collègues le sachent, parce qu'en se disant, eh, où est-ce qu'il l'a attrapé, où est-ce qu'il a mis son casier, etc. Et donc, la règle, c'est quand ils revenaient au poste, et alors, t'as pêché? Il dit non, j'ai pas vraiment pêché. Et ils lui tendaient la main pour serrer la main. Et vous savez qu'une langouste, c'est une espèce d'abrasif absolument absolu. Donc, quand il l'a récupéré dans le casier pour la sortir, elle est très vivante, évidemment, elle accroche un peu la main. Et en serrant la main, ils se rendaient compte s'ils avaient pêché ou pas, pour voir si la main était devenue un peu rugueuse et calleuse. Comme quoi, la poignée de main n'a pas toujours que des vertus.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que les langoustes, en plus, là-bas, sont absolument
magnifiques,
délicieuses, et puis elles sont énormes.
Et depuis le Covid, maintenant, on ne peut plus rien savoir, puisqu'ils doivent aussi se taper le coude.
On ne sait plus si le copain a pêché ou pas.
Je préfère qu'on lève le coude que le taper, mais bon, chacun son truc.
Bon, est-ce que vous avez une autre obsession maraîchère, comme dirait Emmanuel Mariani?
en ce moment.
Écoutez, en ce moment.
En plus de l'abricot, bien sûr.
Oui, parce qu'on parle de fruits et légumes frais, mais aussi de saison. Alors, qu'est-ce qui est au top de la saison et que vous adorez cuisiner en ce moment?
Ce qui est au top de la saison en ce moment, c'est évidemment les petites courgettes magnifiques. Moi, j'aime beaucoup faire crues ou grillées. Je trouve que cuire la courgette, c'est une erreur.
C'est de l'eau,
parce que ça devient aqueux, c'est pas intéressant. Donc, encore une fois, il faut les choisir très dures, très propres, très neuves, hein, qu'elles aient pas traîné sur les étals pendant longtemps. Et ensuite, on peut simplement les débiter comme ça, crues, les assaisonner avec une petite huile. Ça peut être une huile de noisette, une huile de noix. On peut pas utiliser tout le temps de l'huile d'olive. C'est pas forcément passionnant, toujours. Ou alors faire une huile. Par exemple, moi, j'aime beaucoup. Je récupère des feuilles de figuier. Je mixe mes feuilles de figuier avec une huile neutre, une huile d'arachide ou une huile de pépins de raisin, et on obtient une huile assez verte qui est cette huile que j'appelle huile de feuille de figuier et qui a une caractéristique particulière, c'est que dans la feuille de figuier on a une molécule qui est une lactone, et la lactone c'est aussi la molécule de la noix de coco. Et d'un seul coup, vos courgettes avec des petites herbes, un peu d'estragon, un petit peu de livèche, un peu de persil, un peu de coriandre, ce que vous voulez, la petite salade très vivante de courgettes crues, l'huile de feuille de figuier, et vous emmenez d'un seul coup vos courgettes dans les îles, vous les ramenez en Méditerranée, vous les ramenez en Provence, et d'un seul coup, il y a la cigale qui chante dans l'assiette. Donc ça, c'est intéressant. On a parlé des haricots, et écoutez, on commence à voir les premiers poivrons, les premiers piments, ce qui est très intéressant aussi, notamment de les travailler avec les fruits. On a les premières tomates, ça y est, les tomates de Provence arrivent. Pensez que la tomate, c'est un fruit.
C'est ça qui nous étonne, parce que vous dites, on a les premières tomates, alors que les tomates, on les voit depuis un moment, là.
Non, mais ça, c'est les fausses tomates. Je parle de vraies tomates.
Alors comment on reconnaît les vraies tomates?
Était ancienne, etc. Ben, vous savez, une belle tomate, déjà, elle a une chair ferme, elle n'est pas farineuse, elle sent très bon. Ça c'est important, elle a une belle texture, une belle couleur, une peau très lisse, et puis souvent les tomates de variété ancienne, elles ont un peu des scarifications. Une scarification sur une tomate, c'est quoi? Ben, c'est que d'un seul coup on n'a plus la tomate dans sa perfection, mais on a des parties qui deviennent un peu ligneuses,
les tomates trop rondes, trop parfaites, c'est un peu louche.
Elles ont des formes qui sont un peu plus bizarres finalement que les autres. Et donc
ils font des fausses tomates de variété ancienne qui sont là depuis un moment.
Hein. Absolument.
Bah, ne serait-ce que la cœur de bœuf, on trouve des cœurs de bœuf partout, qui ne sont pas des cœurs de bœuf d'ailleurs.
Voilà. Et alors, pour revenir à une recette, pensez une chose, la tomate c'est un fruit, donc vous allez la travailler comme un fruit, et comme on a plein de fruits en ce moment, on a les premiers cassis, pareil, cassis, faites-les juste chauffer comme ça avec un tout petit peu de beurre dans une casserole, il faut que la baie reste entière, mais elle va commencer à libérer un peu de jus, vous voyez, elle va prendre l'odeur du cassis. Vos tomates, vous les tapez en fin carpaccio ou en quartier ou en ski.
En vitrail, vous écrivez sur votre carte.
Oui, en vibrant vitrail. Parce qu'il y a quelque chose de magique, je trouve, dans la tomate. C'est presque mystique, la tomate, quand elle est taillée. Il y a toutes ces vibrations du soleil qui arrivent. Un petit peu de baie cassis, comme ça, tombé. Framboise écrasée. Encore quelques abricots ou des pêches. Un peu de basilic. Une huile d'olive, un petit peu de sel, et vous avez la plus belle salade du monde, et qui vous enchante et qui vous emmène justement comme ça dans un rapport aux fruits et à la santé. Quand on les mange, on sent qu'on se fait du bien.
Parce que je crois que le cassis de tous les fruits, c'est peut-être en termes de vertu le fruit numéro un, le cassis.
Moi, j'ai aussi une grande passion pour le cassis, et le cassis est passionnant.
C'est rare quand même.
La baie est formidable, mais les feuilles aussi sont extraordinaires, et c'est dans la feuille on a les plus grands arômes de cassis. Donc les jeunes feuilles, on peut les manger telles quelles, ou les autres feuilles, on peut aussi les mixer et faire une petite huile de cassis qui va alors prendre des goûts absolument extraordinaires de cassis.
Comment vous
pas trop, parce qu'après c'est comme le buis, on va vers le pipi de chat.
Oui, vers la mer aussi un petit peu. Oui.
Comment vous les choisissez, les framboises? Parce que là, c'est vrai que les framboises, on en a aussi de plus en plus, presque toute l'année. Comment on les choisit pour qu'elles soient bonnes? À quoi vous faites attention, vous?
Je pense que quand on est sur un marché, faut éviter celles qui sont emballées dans des boîtes en plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui arrivent de Hollande ou qui arrivent d'un peu partout. Heureusement, il y a quand même les indications, celles qui ont des couleurs aussi un peu fluorescentes. Vous voyez, je pense qu'on les voit la nuit aussi. Donc celles-là, il faut éviter de les manger.
C'est la framboise de Tchernobyl.
Voilà, celle que vous voyez la nuit dans votre cuisine, sans lumière, il faut pas les manger. Et puis les framboises, c'est quand? C'est maintenant jusqu'à fin octobre, parce qu'en octobre on a ce qu'on appelle le regain, donc on a des framboises qui vont repousser notamment sur les arbustes remontants. Et puis voilà, il faut essayer d'aller chercher, sentez-les et arrêtez et faites-vous engueuler par les marchands en goûtant un produit sur un étal. On a le droit, c'est pas interdit tout de même.
Oh, puis les bons producteurs ou les bons marchands,
ils sont heureux de vous faire goûter.
Ils sont pas mécontents quand on goûte. Ouais.
Bien sûr.
Le melon cette année, il est comment? C'est bon là ou c'est encore un peu tôt?
Ah, ça dépend du cas du melon aussi. Bruno.
Je pense que c'est pas encore la saison du melon. Alors, je suis pas un grand spécialiste du melon. Moi, le melon, j'aime bien le travailler justement un peu cuit, comme le concombre. Vous savez, le concombre et le melon, c'est la même famille.
Ce sont des cucurbitacées. Ouais. D'ailleurs, dans les statistiques d'Interfell, ils sont classés dans les légumes et non pas dans les fruits. Hein,
et
le
donc,
melon.
Le concombre au chaud. Alors, qu'est-ce que vous faites avec du concombre?
Et alors, les concombres, c'est pareil. C'est comme le melon. C'est très intéressant de les travailler comme ça au sautoir, mais quelques secondes, c'est-à-dire juste le temps qui tiédissent. Et justement, vous parlez du cassis. Essayez de faire un concombre cassis tiède, vous allez voir, c'est merveilleux. Pareil avec le melon, ou d'aller travailler avec des petits aromates ciselés qu'on va mettre juste sur le melon à peine tiédi, comme ça, et c'est merveilleux.
Ouais, donc on marie les fruits et les légumes.
Je sais que vous êtes déçus, je sens que vous êtes déçus. Vous voulez que je vous fasse un petit melon jambon, mais ce sera sans moi.
Franchement, non.
Non, mais
c'est vrai que on voit les melons qui sont arrivés et c'est vrai que là aussi on peut avoir de grandes déceptions sur le melon. Qu'est-ce que c'est le début de la saison ou pas, mais
bon. Oui, alors on trouve quelques bons melons sur les étals, j'en ai acheté, mais ils sont à un prix exorbitant. C'est-à-dire que un bon melon coûte 6, 7, parfois 8 euros la pièce.
Ce qui est scandaleux.
Ce qui est absolument énorme, mais
est-ce
pour
qu'on
avoir
parle
un bon
du
melon,
prix
c'est
des tomates. Est-ce qu'on parle du prix des tomates?
Ah mais alors le problème c'est que
je vais vous dire.
Non, le problème, c'est que les tomates de petits producteurs qu'on trouve sur un marché à l'heure actuelle, elles sont moins chères vu que la saison, on commence à rentrer dans la saison, elles sont moins chères que les tomates dégueulasses hors sol qu'on trouve au supermarché. Donc, bon, on arrive au terme de l'émission. On aurait pu faire 2 heures, voire 3, avec Bruno. De toute façon, on pourrait parler de cuisine pendant 2 heures. Je vais rappeler l'adresse de votre restaurant étoilé, le restaurant Table, 3 rue de Prague à Paris 12e. Dans un très beau quartier où il y a beaucoup de gastronomie, beaucoup de gourmandise.
Il reste de la langouste pour ce soir, aux abricots et aux carottes, ou c'est mort?
Non, on est très malheureux parce qu'en fait, j'en avais deux, j'en voulais en garder une pour ce soir et on a tout vendu hier, on est très très...
N'y allez pas et réclamez pas la langouste.
Eh bien, il y avait des chanceux.
On a des homards.
Ah, bah c'est bien aussi. C'est bien. Et ils viennent d'où, les homards?
Ben, ils viennent de l'île
de Dieu. De l'île
Dieu
aussi. Voilà, beaucoup de choses qui viennent de l'île Dieu.
On a la dorade rose pagre, sublime aussi, absolument merveilleuse. Je travaille avec un petit peu de pêche blanche qui vient aussi de l'île Dieu. On a du turbo qui vient de l'île Dieu. Mais on a du saumon sauvage qui, lui, vient de l'Adour, parce que le saumon sauvage de l'Adour, c'est la plus grande des merveilles du monde.
Ça plairait à Alain Dutournier, ça, le saumon de l'Adour. Allez, merci de nous avoir écoutés. Philippe?
Passer un très très
à la
bon
semaine prochaine.
Week-end, et c'est la dernière de l'année, la semaine prochaine, hein, puisqu'après Manu, vous partez sur votre terrasse.
Bon, absolument, les terrasses de Manu après tout l'été.